Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Capital, animée par
Elisabeth Couget
et Christina Fota. Nous partons aujourd'hui au sud de l'Asie, vers la capitale de la plus grande démocratie du monde.
À Delhi, capitale de l'Inde, un immense pays de plus de 3 millions de kilomètres carrés et dont la population dépasse allègrement le milliard. En 2016, on y comptait 1,324 milliards d'habitants, plus de 20 fois la population française.
Ça fait rêver.
C'est beaucoup,
n'est-ce pas? Alors, New Delhi est situé dans l'Inde du Nord.
Dans une plaine où la ville peut s'étendre à loisir. Elle est traversée par la rivière, ou plutôt le fleuve Yamuna, puisqu'il fait 1370 km de long.
C'est énorme, hein? Alors, New Delhi compte 25 millions d'habitants.
Oui, c'est une des capitales les plus peuplées du monde et en plus en expansion continuelle, qui s'étend sur environ 1 500 km². On estime qu'en 2030, ce sera la ville la plus peuplée du monde, peut-être. Elle est très riche en trésors artistiques. On y trouve plus de 1000 monuments historiques et elle présente aussi une véritable mosaïque humaine.
En tout cas, pour l'avoir visité, je peux vous dire que New Delhi est une ville passionnante.
C'est vrai, mais c'est vrai aussi que sa visite peut se révéler épuisante, voire éprouvante, à cause aussi du mélange très spécial et parfois difficile à vivre entre la misère des rues et la splendeur des monuments.
En tout cas, c'est l'Inde, donc effectivement.
C'est l'Inde.
Misère et richesse côte à côte. Et c'est ainsi depuis longtemps. C'est une très, très ville.
Une ville importante.
Une ville importante.
Depuis longtemps. D'ailleurs, à Delhi même, on trouve de nombreux vestiges de 7 cités historiques majeures. Tu te rends compte? Aujourd'hui, Delhi, c'est donc un ensemble de ruines, de citadelles médiévales, des ruines de palais, de tombeaux, de mosquées, des palais aussi, en bon état. Et puis, bien sûr, d'une jungle de béton qui s'étend sans cesse.
Alors, bien avant les Aryens, en provenance d'Asie centrale, ont jeté les bases de l'Inde actuelle.
C'est ça, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, les Aryens arrivent avec leur ancienne culture. Donc, ils apportent le sanskrit, qui est la langue sacrée et la langue littéraire de l'Inde ancienne, et aussi le védisme, la forme primitive de la religion brahmanique qui va donner l'hindouisme. Et puis, ils apportent aussi leurs principes, donc le système des castes, qui est toujours très vivace en Inde.
Oui, extrêmement. Et je crois que Gandhi a bien voulu que ça disparaisse, mais voilà, ça ne s'est pas vraiment fait.
C'est très difficile.
Alors, il faut savoir que plus de 80% des Indiens sont des hindous.
Et donc, répartis en castes, qui sont les brahmanes, ce sont les prêtres et les enseignants, les ksatriyas, des guerriers, les vésias, marchands, agriculteurs, tout cela forme à peu près 20% de la population, enfin des hindous. Ensuite, il y a les sudras, qui sont des artisans ou des serviteurs et qui forment le gros des troupes avec 42%. Et puis les intouchables, 20%, ce sont des hors castes, des parias considérés comme impurs et dont la situation est très difficile. Donc en fait, on voit bien que c'est une société fortement inégalitaire. Et quant au reste, en Inde, ce sont majoritairement des musulmans et des sikhs.
Alors après ce rappel des castes et de la répartition de différentes populations, revenons à l'histoire de l'Inde. En 327, Alexandre le Grand établit en Inde des colonies.
Avant Jésus-Christ.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui, c'est ça. Alors après, on passe après Jésus-Christ, donc vers 1900, une première cité qui s'appelle Lalkot, est construite à l'emplacement de Delhi. D'ailleurs, ça fait penser que l'autre cité, c'était Calcutta, qui est devenue Calcutta. On retrouve encore ce nom.
Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on l'appelle Calcutta, puisque tous les noms qui ont été donnés par les Anglais ont changé.
Oui, voilà, c'est ancienne. Ça.
Alors, en 1206, donc de notre ère, bien sûr, c'est le début de l'influence musulmane.
Avec la création du sultanat de Delhi qui durera plusieurs siècles. Quant au sud de l'Inde, il reste indépendant et gouverné par une dynastie hindoue. De cette époque, donc du sultanat de Delhi, date entre autres Siri, la deuxième cité, une ville prospère, puis Tughlukabad, qui laisse une impressionnante forteresse, et des tombeaux, aujourd'hui envahis par les singes, puis Jahanpana et ses remparts fortifiés.
Alors en 1398, Timurlung, celui que nous connaissons sous le nom de Tamerlan, voilà, puis la cité et la dépouille de tous ses trésors, enfin d'une grande partie de ses trésors.
En 1526, c'est la dynastie moghole qui prend le pouvoir. Son fondateur, c'est Babur. Mm-hmm. Il descend de Genghis Khan. Il est parti de Samarcande et il bat le sultan de Delhi et se fait proclamer empereur.
Alors, la dynastie moghole laissera de nombreux chefs-d'œuvre, parce qu'ils vont rester un certain temps.
Des chefs-d'œuvre magnifiques, et en particulier, c'est des édifices en marbre blanc, comme la mosquée de la Perle à Delhi, ou le fameux Taj Mahal à Agra. Et puis aussi des édifices en grès rouge, comme le Fort Rouge. Mm-hmm. Les monuments sont souvent incrustés de pierres précieuses et semi-précieuses. Et cette dynastie moghole va régner jusqu'en 1857, c'est-à-dire jusqu'aux Anglais. Mm-hmm. En 1540, le fils de Babur, qui s'appelle Humayun, fonde la sixième cité, Purana Kila, et parallèlement, les Européens découvrent l'Inde.
Alors, en 1498, Vasco de Gama a fondé Goa.
C'est ça,
Goa. Un comptoir.
Oui, oui.
Au sud,
sur la côte ouest.
Sur la côte ouest, voilà. Exactement.
Et donc, les Portugais exportent épices et matières précieuses. Et bien sûr, Hollandais, Français et Anglais leur emboîtent le pas. Les Anglais ouvrent en 1608 un premier comptoir en Inde. Et au XVIIe siècle aussi, parallèlement encore, l'arrière-petit-fils de Humayun, qui s'appelle
Shah Jahan,
fonde la septième cité, qui s'appelle Shah Jahan Abad. Abad, c'est ville.
Abad, c'est la ville.
Ouais. Shah Jahan Abad, une ville splendide, qui est aujourd'hui Old Delhi, la partie la plus ancienne de Delhi, et qui est construite entre 1638 et 1648.
Alors n'oublions pas que Shah Jahan, dans le monde, est surtout connu pour avoir lancé la construction du fameux Taj Mahal à Agra en 1630.
Oui, exactement, et en souvenir de son épouse, qui était morte en 1631 en donnant naissance à leur 14e enfant.
C'était quand même beaucoup pour la pauvre. En 1559, Aurangzeb, qui va monter sur le trône moghol.
Oui, alors donc Aurangzeb, c'est le fils de Shah Jahan. Voilà. C'est un fils qui est très très cruel, puisqu'il fait assassiner ses frères et emprisonner son père, Shah Jahan, au Fort Rouge à Agra. Mm-hmm. Shah Jahan va rester enfermé au Fort Rouge pendant 8 ans jusqu'à sa mort et sera enterré au Taj Mahal, en face, près de sa femme.
Heureusement, parce que pendant ces 8 ans, il n'avait le droit que de regarder le tombeau de son épouse.
De retourner la
porte. Alors, l'histoire est souvent violente en Inde, n'est-ce pas ?
Oui,
cruelle.
Exemple, en 1739, Nadir Shah, qui vient de Perse, envahit Delhi, c'est-à-dire envahit Shah Jahan Abad. Il massacre 30 000 habitants avant de rentrer en Perse en emportant le trône du Pan.
Ah, le fameux trône du Pan,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui.
Avec son diamant du Kohinoor.
Le magnifique diamant du Kohinoor. En fait, le trône du Pan, c'est le trône légendaire de Shah Jahan. Il est orné de 1150 kilos d'or, de 230 kilos de pierres précieuses, ça devait peser très lourd, et du fameux diamant de 105 carats, le Kohinoor. Il est emporté en Perse par Nadir Shah, et puis on en perd la trace. Nadir Shah est assassiné, le trône n'est jamais réapparu.
Ça fait rêver les écrivains, moi j'en ai lu.
Oui,
à la
découverte du trésor.
C'est ça. Mais alors, c'est un mystère donc dans l'histoire si mouvementée de l'Inde et de New Delhi. Alors prenons le temps d'une pause musicale pour penser à ce fameux trône.
Et pour souffler un peu en écoutant un célèbre musicien indien qui s'appelle Ravi Shankar. Thank you.
nous retrouvons dans les studios de Radio Grand Ciel pour parler de New Delhi dans notre émission Capitale, où nous sommes arrivés en 1756. Et de cette date jusqu'en 1763, les Français et les Anglais vont s'affronter.
C'est la guerre de 7 ans sous le règne de Louis XV, qui voit la victoire des Anglais. Au traité de Paris en 1763, la France perd ses possessions en Inde, et d'ailleurs aussi au Canada, oui. Voilà. En Inde, elle conserve 5 comptoirs, mais les Anglais vont désormais marquer l'Inde de leur influence.
Alors, tu te souviens des noms des comptoirs
de France ? Il y a Pondichéry, ça, je suis sûre. Hein, après, il y avait une chanson.
Oui, il y en a
les
5.
Les comptoirs de l'Inde. Oui.
Alors, la British East India Company, qui va coloniser le Bengale en 1772. Donc, les Anglais seront de plus en plus présents sur ce continent.
Voilà. Et en 1857, les Indiens se révoltent contre les Anglais. C'est ce qu'on appelle la révolte des Sipayes. Mm-hmm. Selon une rumeur, les Anglais ont osé graisser des armes avec du suif de bœuf ou de la graisse de porc. Mm-hmm. Ce qui est une insulte à la fois aux traditions hindoues, puisque les vaches sont sacrées, mm-hmm. et musulmanes, les porcs sont impurs. Toute la garnison d'un fort anglais est tuée. La répression anglaise sera violente et implacable. Le dernier empereur moghol, Bahadur Shah, est exilé en Birmanie.
Et les Anglais sont maintenant maîtres de l'Inde, mais à quel prix, n'est-ce pas ?
Maîtres de l'Inde, pour l'instant. L'Inde est rattachée à la couronne britannique, un vice-roi est nommé. Et en 1877, la reine Victoria est proclamée impératrice des Indes. Mais au XXe siècle, une grande figure apparaît en Inde, c'est Gandhi, qui est surnommé par Rabindranath Tagore, un grand poète indien, prix Nobel 1913, donc qui surnomme Gandhi
Mahatma.
Le Mahatma Gandhi, qui veut dire la grande âme.
C'est bien comme ça que les Indiens l'appellent. Hein. Alors, Gandhi, qui est né en Afrique du Sud et qui vivait en Afrique du Sud, qui était avocat là-bas, il décide, le jour où il découvre que malgré ses études et toutes ses possibilités, il n'est pas mieux traité que les Africains, il rentre en Inde et il s'engage dans la lutte contre les Britanniques.
C'est ça, il prêche la résistance non violente, ça c'est vraiment typiquement la philosophie de Gandhi, oui. Et il sera plusieurs fois emprisonné. Il se consacre aussi à l'éducation du peuple et au triste sort des intouchables.
En 1931, est inaugurée une nouvelle ville.
Oui.
Une nouvelle Delhi. Voilà.
New Delhi.
Nous parlons de New Delhi à partir de ce moment-là.
Voilà, la 8e cité de Delhi.
Exactement.
Et le roi George et la reine Mary ont posé la première pierre en 1927. Donc, 4 ans plus tard, New Delhi est terminée. Mais 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 1947,
après la Deuxième Guerre mondiale,
voilà, juste après, la campagne de désobéissance civile lancée par Gandhi va aboutir à l'indépendance de l'Inde, donc.
Et à sa partition.
Oui, un nouvel État est créé au nord-ouest de l'Inde pour accueillir les musulmans, c'est le Pakistan. Mmh. 10 millions de personnes émigrent dans chaque sens et des millions de réfugiés arrivent à Delhi. Mmh. Cette partition entre l'Union indienne et le Pakistan se fait dans la douleur et une grande violence.
Et dans le sang.
Entre hindous, sikhs, oui, dans le sang, malheureusement.
Et plus de 500 000 morts, quand même. Hein.
Oui, mais presque 1 million de morts.
Ouais.
Oui. Terrible.
Et voilà, Gandhi est assassiné le 30 janvier 1948.
Toujours
donc il n'a pas beaucoup
violence,
profité
oui.
de l'indépendance de l'Inde. Oui. Par un extrémiste hindou qui détestait les musulmans.
Et un peu plus tard, en 1971, une nouvelle partition voit naître à l'Est l'État du Bangladesh.
Que de violence dans un peuple si religieux et paraît si paisible.
C'est vraiment si religieux et puis qui perpétue avec force ses traditions. Par exemple, les vaches sacrées qui déambulent toujours dans les rues de Delhi sans se soucier des embouteillages qu'elles causent. En fait, le respect de la vache, c'est le respect envers la mère universelle. La vache symbolise la maternité, la charité, la pitié. Le lait de vache est consommé par le petit de l'homme. La vache, c'est donc la mère de l'homme pour les hindous. Elle assure la survie des enfants.
C'est pour ça, quand il y avait l'histoire des vaches folles en Europe, les Indiens ne comprenaient absolument pas
qu'on
les laisse, qu'on laisse pas mourir tranquillement les vaches pour qu'on les tue, parce que pour eux, on ne tue pas sa mère, donc c'est normal. Alors c'est un peuple religieux, voire mystique.
C'est vrai. Par exemple, il y a ces personnages qu'on croise partout en Inde, qu'on appelle les sadhus. Ce sont des ermites errants, couverts de cendres et vêtus de robes couleur ocre ou safran. Et ils n'ont pour seul bien qu'un bol, un bâton et une couverture.
Et maintenant, grimpons dans un rickshaw. C'est une petite remorque tirée par un vélo pour se balader dans le vieux Delhi ou dans Old Delhi, la partie la plus ancienne de la capitale, la vieille ville historique.
D'accord, on y va. Donc la capitale de l'Inde musulmane, c'est donc Old Delhi, construite du XIIIe au XIXe siècle. L'ambiance ici est bruyante et agitée. Dans des rues étroites, surpeuplées, avec des échoppes colorées, les rickshaws, les charrettes et bien sûr les inévitables vaches sacrées. Ici, on est vraiment en Inde. La foule, la cacophonie, les bousculades. On est assailli par les bruits, les odeurs, les couleurs. Dans le marché de Chandni Chowk, par exemple, un immense bazar et ses étalages de saris, de châles de cachemire, de cuivre, d'argent, les brocarts, les bijoux, les émaux et aussi les fruits secs, les graines.
L'Inde, le fabuleux marché aux épices,
bien
n'est-ce
sûr,
pas
les parfums puissants du tamarin, du gingembre, du curcuma, du coriandre ou des piments. Et à l'approche des fêtes, en plus, les décorations lumineuses, les guirlandes de fleurs, les rubans, les turbans.
Alors, il faut savoir que les Indiens adorent les festivités.
Oui, par exemple, la fête de Dussehra, qui célèbre la victoire de Rama, ou en octobre, la fête de Diwali, la fête des Lumières.
Et tout près, voilà,
Tout près, il y a le Bird Hospital, l'hôpital des oiseaux. Alors, c'est tout à fait étrange. Il date de 1656, c'est vraiment unique en son genre, puisque c'est un hôpital comme refuge pour les oiseaux malades ou blessés. Très indien.
Et puis, en contraste avec ce chaos exubérant, le calme des lieux historiques, avec la découverte des principaux monuments moghols.
Oui, le Fort Rouge d'abord, qui a été construit donc par l'empereur Shah Jahan, dont nous avons fait la connaissance un peu plus tôt. Il est construit en 1640. C'est une énorme forteresse en pierre rouge. Et le luxe des salles, la décoration évoque la puissance, puis la décadence de la dynastie des empereurs moghols.
On y entre par la porte de Lahore.
Puis, une galerie voûtée mène à la maison du tambour, où l'empereur venait écouter les doléances de ses sujets, l'empereur qui était assis sous un dé de marbre incrusté de pierre. Les audiences, on les appelait aussi les durbars, s'accompagnaient de danse et de musique.
Dans le Fort Rouge, on peut aussi voir le hammam et ses fameuses trois salles.
Où on pouvait donc prendre d'abord un bain de vapeur, puis un bain d'eau froide et terminer par un bain d'eau de rose. Et c'est du Fort Rouge que Nehru s'adressa au peuple le 15 août 1947, jour de l'indépendance de l'Inde, et que le drapeau indien fut déployé.
Voilà, Nehru, n'oubliez pas, a été le père d'Indira Gandhi.
Exactement.
Alors, ses couleurs sont vert, blanc, orange, et au milieu, il y a la roue d'Ashoka.
C'est ça. Dans la vieille ville, face au Fort Rouge, la plus grande mosquée de l'Inde, la Jama Masjid, qui date aussi de 1656.
Elle est magnifique et imposante, avec ses trois énormes dômes et ses deux minarets. Le tout est couvert d'oiseaux.
Oui, c'est superbe. Et elle peut accueillir jusqu'à 25 000 fidèles le vendredi, ainsi qu'à la fin du Ramadan. Un souterrain reliait Jama Masjid au Fort Rouge pour permettre aux femmes de la famille royale de rejoindre la mosquée. Car selon la tradition du Purda, elles devaient rester invisibles aux autres hommes.
Du minaret sud, on a une vue fabuleuse sur le vieux Delhi et le Fort Rouge.
Et quant à la mosquée de la Perle, elle a été construite en 1699 par Aurangzeb,
le cruel
et ambitieux fils de Shah Jahan. Son architecture est très fine et les trois dômes en marbre blanc brillant qui la couronnent évoquent justement l'éclat de la perle. Et tout au fond, à côté du fleuve Yamuna, s'élève le Shah Burg, la tour impériale, dont l'empereur suivait les combats d'éléphants qui se déroulaient au pied des remparts.
Alors en imaginant cette scène, écoutons un peu de musique indienne, si surprenante à nos oreilles.
Laissons-nous envoûter par la mélodie du charmeur de serpent.
Thank you. Avant cette courte pause musicale, nous nous promenions dans le vieux Delhi à dos d'éléphant, tout au moins en imagination.
Et nous voici arrivés devant Gurudwara Si Gang, un impressionnant ensemble religieux de la communauté sikh.
Alors, les sikhs sont nombreux en Inde.
Ils ne représentent que 2% de la population, donc pas beaucoup, mais ça fait quand même 20 millions 2% de la population indienne. Mais ils sont très présents dans le commerce, dans les affaires. Ils sont nombreux à Delhi. Le sikhisme encourage l'honnêteté et le service de la société. Et ce sont des personnes fiables et sûres auxquelles on peut faire confiance. On les reconnaît facilement à leur aspect. Leur barbe n'est pas taillée. Ils arborent de belles moustaches et un turban de couleur qui cache leur longue chevelure roulée en chignon. C'est une élite en Inde, les sikhs.
Oui, très intelligents en général, ils font beaucoup d'études. Alors, leur religion est une synthèse de l'islam et de l'hindouisme.
Oui, la religion des sikhs naît au 15e siècle. Et de l'hindouisme, elle rejette les castes, mais elle garde la croyance en la réincarnation. Et de l'islam, elle tient la prière, la simplicité et aussi l'absence de représentation divine.
Et puis, n'oublions pas, il y a la fameuse règle des 5 K.
Des 5 éléments qui commencent tous par la lettre K, qu'ils doivent toujours porter sur eux. Alors, Kesh d'abord, le poil.
Bon, le coupe.
Il ne se coupe ni la barbe ni les cheveux. 2, le Kanga, un peigne dans leurs cheveux. 3, Kara, un bracelet à leur poignet. 4, Kassa, un caleçon court. 5, Kriran, un poignard pour se défendre. Et les sikhs ont la réputation d'être des combattants redoutables, d'excellents guerriers qui ont d'ailleurs fait leurs preuves bien souvent.
Et puis, après les sikhs, allons nous recueillir au mémorial de Gandhi.
De Gandhi, appelé le Raj Ghat. C'est une plateforme de granit noir dans un jardin qui marque l'endroit où fut incinéré le Mahatma Gandhi. Les guirlandes d'œillets d'Inde qui la recouvrent sont les seules, elles, de couleur orange, sont les seules notes de couleur.
Alors à présent, passons par la porte de l'India, donc India Gate.
La porte de l'Inde, donc l'India Gate, qui est un arc de triomphe de 42 mètres, érigé en 1931 pour New Delhi et classé par l'UNESCO. Donc nous entrons dans New Delhi par l'India Gate, cette ville nouvelle, cette huitième cité construite par les Anglais pour devenir la capitale de l'Empire des Indes. New Delhi est construite autour de larges avenues bordées de bougainvillées, de flamboyants, de frangipaniers et d'une place centrale, Connaught Place, le cœur de New Delhi. Et son style allie le classicisme européen et l'art décoratif indien, avec des jardins néo-mogols et de vastes perspectives.
Ici s'impose la visite de Qutub Minar, un spectaculaire minaret également inscrit au patrimoine de l'UNESCO.
Alors, Qutub Minar, voilà. Il fut construit au XIIIe siècle par le premier sultan de Delhi, qui s'appelait d'ailleurs Qutub ud-Din, pour célébrer sa victoire sur les rois hindous. C'est la plus haute tour de l'Inde, elle s'élève à 72,50 m et elle est composée de 5 étages. Alors sur les 3 premiers, en grès rouge et cannelé, on peut lire des sourates du Coran dans des bandeaux d'arabesques magnifiquement ciselés. Puis, il y a 2 étages en marbre avec des anneaux de grès rouge. Et dans la cour de la mosquée, on peut voir une colonne de fer de 7 mètres de haut et qui date, elle, du 4e siècle et qu'on appelle l'Iron Pillar, le pilier de fer.
Et ce pilier de fer montre l'étonnante science de la métallurgie.
Oui, au 4e siècle.
N'oubliez pas, bien nettement avant.
Bien avant Gustave Eiffel.
Oui, presque 1500 ans avant, car elle ne montre aucun signe de corrosion. Elle n'a jamais été rouillée.
Avec l'India Gate et Qutub Minar, il y a un troisième site qui est inscrit à l'UNESCO, à Delhi. Et c'est le tombeau d'Humayun. Ce tombeau date de 1565. Et ses proportions sont tout à fait gigantesques, en grès rouge et en marbre blanc. La double coupole du dôme, avec ses incrustations et ses écrans de pierre ajourée, servit de modèle au Taj Mahal. Et dans la petite tour, Sher Mandal, en grès rouge, qui servait de bibliothèque, un an plus tard, en 1566, le pieux Humayun entendit l'appel de la prière, se précipita dans l'escalier trop rapidement, glissa et fit une chute mortelle.
Le pauvre. Alors, il y a les jardins, il y a des jardins de Lodi, qui offre une jolie promenade au milieu des vestiges sauvegardés.
On passe sur un gracieux pont de pierre et on admire les imposants tombeaux de la dynastie Lodi au XVe siècle, les Lodi qui étaient les derniers sultans de Delhi.
Alors bien sûr, il y a de grands musées à New Delhi.
Bien sûr. Donc le musée national d'abord, le National Museum, le plus riche musée du pays, une sorte de Louvre indien, avec des collections éblouissantes, plus de 200 000 œuvres d'art qui retracent 5000 ans de l'histoire indienne, bronze, sculpture, sabre, brocart, miniature, enluminure, etc.
Mais aussi le très intéressant musée de l'artisanat.
Le Craft Museum, il montre la diversité des traditions populaires, dont un village complexe qui nous montre un village avec les exemples de l'architecture traditionnelle en Inde. Et dans un autre ordre, intéressant à voir aussi, l'observatoire de Jantar Mantar de 1724, à ciel ouvert, présente les instruments de mesure du Maharaja de Jaipur, Jai Singh II, qui était un astronome érudit.
Alors nous pouvons clore la visite de Delhi, qui est loin d'être exhaustive, par quelques monuments beaucoup plus proches de nous.
Alors certains temples modernes, énormes, donnent dans la démesure et sont des débauches de marbre blanc, de statues dans des jardins aux allures de décoration à pâte d'amande. Le colossal Svaminarayan Temple, il date de 2005, ne compte tout simplement 2000 personnages sculptés, 9 dômes, 20 flèches, 9 salles d'hôtes en marbre, avec, c'est vrai, une splendide terrasse aux 148 éléphants.
Alors, on peut lui préférer le temple de Lotus, mais je crois que
ça alors, la silhouette quand même du temple de Lotus est tout à fait spectaculaire. Et c'est un des édifices vraiment les plus étonnants qui rappelle un peu l'opéra de Sydney.
Alors, c'est une ville qui est très chaude en été, et malheureusement, on très est chaud, obligé de l'abandonner, Christine.
Elle affronte quand même beaucoup de problèmes actuellement avec la pollution, tout cela. Il faut savoir que pendant la saison chaude, la température s'élève à 36 degrés avec la mousson. Et autrefois, on allait à Simla sur les versants de l'Himalaya pour retrouver un peu d'air pur et on redescendait ensuite à Delhi après la mousson.
Voilà, merci de nous avoir fait voyager en Inde. J'ai retrouvé ça avec plaisir et j'espère qu'une autre fois, on en parlera peut-être un peu plus longuement encore de cette ville exceptionnelle qu'est New Delhi.
Et à bientôt pour merci une nouvelle émission.
Merci Christine.
Capitale.
Sapna kitna roye aaye dilapna aaja tu mere dil mein kitna dukh hai is dil mein andheri hai ye rahe dar de tu meri दूर क्यों है तू मेरे दिल से पूछता हूँ मैं तुझसे।